Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence Phileas Asset Management. Je laisse à présent la parole à messieurs Cyril Bertrand et Ludovic Laval. Messieurs, c'est à vous.
Merci, merci et bienvenue à cette conférence téléphonique. Je pense que vous avez tous les slides qui ont dû vous être envoyés par email. Pour cette présentation, on va commencer par analyser la performance et regarder en détail le drawdown depuis le début de l'année. On évoquera ensuite la gestion des risques dans ce genre de contexte, ce qu'on fait concrètement à court terme et comment on peut évoluer de façon un peu plus structurelle. Donc ça sera une partie importante de la présentation. Et on finira par les idées clés du portefeuille. Alors, si on prend la première partie sur la performance, slide 3, on observe une performance depuis le début d'année qui est à moins 3,3%. Ça, c'est les données à vendredi. Donc évidemment, un drawdown sur lequel on va revenir en détail sur les slides suivants. En termes de caractéristiques et de comportement, on voit que le fonds garde un bêta qui est à 0,0 face au marché, face au stock 600. Donc c'est vrai sur un an, c'est vrai depuis la création, ça bouge pas, c'est sa caractéristique market neutral. Et en termes de volatilité, à noter une volatilité sur un an qui est à 6%, qui est un peu une anomalie parce qu'évidemment on a une base très élevée en mars, avril, mai de l'année dernière où la volatilité était très très forte. Donc au fur et à mesure qu'on va sortir de la base cette période-là, on reviendra naturellement sur une volatilité qui est conforme à ce qu'on a depuis la création, qui est une volatilité de l'ordre de 3 à 4%, qui n'a pas vocation à bouger particulièrement. On va revenir maintenant sur l'analyse du drawdown, la performance depuis le début de l'année. Page 4, on vous a mis un chart qui illustre la performance relative entre la poche qualité et la poche value de l'univers des valeurs que l'on suit. Hein. Ce n'est pas notre portefeuille, c'est l'univers des valeurs que l'on suit au global. Et donc c'est l'illustration dans le marché de la sur ou sous-performance de la qualité face à la value. Et on verra que c'est un élément important de l'analyse de notre drawdown. Deux observations sur la période récente. Une première observation, enfin, la première observation, c'est qu'il y a eu deux rotations fortes en faveur de la value face à la qualité. Une première vague fin 2020, c'était novembre-décembre, où on a bien traversé, en fait, on a bien traversé cette période-là en affichant une performance de plus 1,4%. Dans une configuration qui habituellement nous est défavorable puisque on a plutôt un biais historique qualité dans notre portefeuille qu'on essaye de gérer de façon réactive en s'ajustant quand on constate qu'il y a des rotations un peu fortes. Et cette fois-ci sur novembre-décembre, on a réussi à plutôt bien la traverser, on était plutôt réactif. Et une deuxième vague de rotation, toujours en faveur de la value face à la qualité, qui a été mal négociée sur la période janvier et février de cette année, 2021, où la performance du fonds est à moins 3,7% sur ces 2 mois-là. Donc là, une rapidité de la rotation qui ne nous a pas permis de nous ajuster, on va revenir en détail sur ce sujet par la suite. Et puis, depuis début mars, une poursuite de cette rotation, mais une neutralisation du biais qualité qu'on a en portefeuille, c'est ce qu'on fait habituellement dans ce genre de drawdown, et donc une stabilisation de la performance du fonds qui est légèrement positive depuis le début du mois. Je vais passer la parole à Ludovic qui va revenir en détail sur la décomposition du drawdown.
Alors on passe page 5 à l'analyse du drawdown. La façon dont on analyse nos surperformances et nos sous-performances, et donc dans le cas d'Express, notre sous-performance, c'est toujours en projetant la performance du fonds sur deux axes, un axe stock picking et un axe structure de portefeuille. Dans un drawdown, en général, pour qu'il y ait un drawdown, il faut qu'il y ait un stock picking qui soit pas bon. Le stock picking n'est pas linéaire, il y a des périodes où il est bon, des périodes où il n'est pas bon, sur longue période il est bon. Mais dans les périodes de drawdown, on considère que ça a historiquement représenté entre un quart et la moitié du drawdown. Et donc la moitié ou les trois quarts sont historiquement expliqués par une structure de portefeuille qui nous est défavorable. Historiquement, ça a été une structure de portefeuille dans des rotations fortes, avec un biais qualité, dans un environnement de retournement de la qualité. Ce qu'on observe et qui est un petit peu singulier dans la performance depuis le début de l'année par rapport à ce qu'on observe historiquement, c'est que la composante stock picking n'est pas négative, elle est même légèrement positive à plus 44 BP. Et donc c'est bien la composante structure de portefeuille et rotation, qui coûte en brut à peu près 3,5, qui explique donc dans ce cas-là plus de 100% du drawdown. Page 6, on a fait l'exercice de vous lister ce qu'on estime avoir été un bon ou un mauvais stock picking dans le portefeuille. L'idée, c'est d'isoler les valeurs pour lesquelles on a identifié une déviation assez forte en positif ou en négatif par rapport aux attentes de résultats, qu'on a bien anticipé ou mal anticipé, et ou à un trading particulièrement heureux ou particulièrement malheureux. Voilà. Donc le solde net de tout ça est positif de 44 BP, et là on a fait comme on fait d'habitude, on a pris nos profits sur des dossiers sur lesquels on avait atteint notre objectif de cours, c'était le cas sur Teladoc, sur Prosus ou sur PayPal par exemple. Et puis on a coupé nos pertes sur des valeurs sur lesquelles on s'est trompé. Ça a été le cas sur Avast ou sur Pandora, par exemple. Si je passe page 7 à la partie principale, puisqu'elle représente plus de 100% du drawdown, de la contre-performance depuis le début de l'année, c'est la composante rotation, où là on a isolé sous portefeuille par sous portefeuille ce qui a été l'impact de la rotation en défaveur de la qualité, notamment de la croissance, hein, plus que des défensives, et en faveur de la value. Il y a quelques contributions positives, mais qui sont marginales. C'est le cas de secteurs à duration longue, comme l'alimentation boisson ou la santé, où la partie short du portefeuille a bénéficié finalement marginalement de cette rotation, sans qu'il y ait d'événements spécifiques sur les valeurs. Et c'est le cas encore plus marginalement sur des secteurs cycliques, comme l'automobile ou la construction, où un biais légèrement cyclique a contribué positivement. Et vous voyez que c'est évidemment bien plus que largement compensé par des contre-performances sur les autres sous-portefeuilles, avec une composante croissance, plus que défensive, une composante croissance qui nous a coûté sur le segment service IT, sur le segment consommation et sur le segment média. Et puis une composante croissance via l'exposition renouvelable, qui avait bien contribué positivement l'année dernière, mais qui a fait le symétrique en ce début d'année. Et cette composante renouvelable, elle s'exprimait dans la partie industrie par un investissement dans Vestas, hein, notamment qu'on a coupé, et dans la partie infrastructure par un investissement dans EDP Renouvelle VIS, qu'on a conservé mais qu'on a réduit. Donc vous voyez que le constat est très clair, un stock picking correct, ce qui est pas le cas en général dans une phase de drawdown, mais là on n'a pas à rougir de notre stock picking, et un drawdown donc expliqué à plus de 100% par la structure de portefeuille. Alors comme on le fait d'habitude, page 8, page 9, on vous a listé les principaux contributeurs, voilà, toujours un exercice de transparence, par sous-portefeuille. Je les ai déjà largement abordés, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. Je repasse la parole à Cyril sur les risques.
Oui, donc page 10, vous voyez notre slide sur le commentaire qui concerne la gestion des risques. Deux commentaires importants. Premièrement, à court terme, un commentaire sur la gestion du drawdown. Et là, c'est une gestion assez habituelle du drawdown. On applique les mêmes recettes que par le passé. C'est-à-dire que dans le passé, à chaque fois qu'on a connu un drawdown, et c'est arrivé de l'ordre de 3 à 4%, ce que l'on fait, c'est qu'on zoome sur les facteurs négatifs qui nous embarquent dans ce drawdown. Historiquement, ça a souvent été le biais qualité face à la value. C'est encore le cas cette fois-ci. Ce qu'on a fait historiquement et ce qu'on fait cette fois-ci, encore une fois, c'est une neutralisation des biais de style pour gérer notre budget de risque, évidemment, et pas aller plus loin en termes de drawdown. On s'attache à reconstruire la performance à partir d'une structure de portefeuille plus équilibrée. Historiquement, on a toujours réussi à regagner ces drawdowns et on va appliquer les mêmes recettes pour tenter de faire la même chose cette fois-ci, évidemment. Et donc, vous voyez, l'exposition actuelle du portefeuille entre qualité et value aujourd'hui est à zéro, en fait. On a totalement équilibré les deux poches pour ne plus rentrer dans ce genre de débat, en tout cas à court terme. Ça, c'était le premier élément de réponse sur ce qu'on fait, et c'est assez consistant avec ce qu'on a fait dans le passé, de toute manière, il n'y a pas de grosse surprise. Le deuxième élément, c'est quelque chose de plus structurel, qui est une évolution de la gestion du risque. On va passer d'une gestion du biais de style, qui était jusqu'à présent une gestion plutôt ex post, plutôt réactive en fait, à une gestion ex ante, donc beaucoup plus proactive. Historiquement, c'est vrai que on se connaît, on a plutôt ce biais qualité face à la value historique dans la structure de portefeuille. Et ce qu'on a fait historiquement, c'est qu'on a géré ce biais de façon plutôt réactive, ex post. Et depuis un an et demi, on a d'ailleurs un outil de gestion des risques factoriel qui nous permet d'avoir une vue très précise de ce qu'on a en portefeuille. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de bien traverser la rotation fin 2020. Mais force est de constater qu'en début 2021, la rotation a été beaucoup plus rapide sur quelques jours en fait. Le drawdown s'est vraiment concentré que sur au total 3-4 jours vraiment qui ont vraiment coûté. Et finalement, voilà, on n'a pas eu le temps, contrairement à l'année dernière, de s'ajuster suffisamment rapidement. Donc il faut acter ça. Et la meilleure façon de l'acter, bah, c'est d'aller au bout de la logique en fait, et de reconnaître qu'on a sans doute surestimé, en tout cas en 2021, en ce début d'année, notre capacité à être suffisamment rapide pour ajuster nos biais, et qu'il faut donc passer, pour être tout à fait cohérent, à une gestion ex ante, proactive de ce biais de style qui nous coûte. La façon dont on va l'acter, c'est qu'on va adopter une borne restreinte d'exposition qualité-value qui va se situer entre plus 5 et moins 5, et on sera évidemment transparent là-dessus puisque ça va être intégré dans notre reporting. Sachant que dans le passé, on a eu des bornes potentiellement plus larges. Il y a eu des moments où on était 10-15% long sur la qualité, 10% short sur la value, donc beaucoup plus large. Donc voilà, qui nous ont entraînés dans ce genre de rotation très clairement. Et le but du jeu, bah, c'est d'avoir à la fin un profil de performance futur dépollué de ce débat, dépolluer de cette discussion sur les rotations, et vraiment concentré sur l'alpha du stock picking, qui est positif historiquement, sur lequel on n'a pas de doute particulier. Alors, il y a deux questions qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est finalement pourquoi on ne l'a pas fait avant ce mouvement, qui est finalement, là on va vraiment au bout des choses en quelque sorte. C'est vrai qu'on aurait pu le faire avant, et il faut reconnaître qu'on a sans doute, comme je le disais à l'instant, surestimé notre capacité à être réactif. On a un bel outil de gestion du risque factoriel où on voit très bien ce qu'on a en portefeuille en termes de biais. Ça nous a permis d'être plus réactifs l'année dernière, donc on avait pris confiance là-dessus. Mais force est de constater qu'en 2021, le mouvement est trop rapide pour s'ajuster. Et donc, il faut aller au bout de la logique, un cran plus loin. C'est pour ça qu'on le fait maintenant. Voilà. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une déperdition de performance en quelque sorte, historiquement, on a pu, sur certaines périodes, bénéficier de ce biais qualité-value. Alors, aujourd'hui, enfin, il nous semble que c'est pas le cas. Ça aurait été une bonne remarque si on ne gérait pas de façon stricte les drawdowns. Si on n'était pas strict sur nos drawdowns, effectivement, on bénéficierait du retour à la moyenne sur la qualité-value après une sous-performance. Et ça serait effectivement, ça serait pas forcément logique d'évoluer parce que, voilà. Mais en revanche, on gère de façon très stricte le drawdown, on a un budget de risque à respecter, et donc on se coupe en quelque sorte au mauvais moment historiquement, quand la qualité a souffert face à la value. On a toujours réussi à récupérer nos drawdowns, mais on n'a jamais bénéficié du retour à la moyenne sur cet aspect-là, et il nous semble qu'en termes de performance, en net, c'est négatif. On construit en quelque sorte une asymétrie négative, puisque quand on gère de façon stricte le drawdown de cette façon-là, on se coupe sans doute au mauvais moment pour gérer notre risque. Donc à l'avenir, il nous semble que en évoluant vers cette gestion du risque, en net, il nous semble que c'est positif en termes de performance et positif en termes de gestion des risques, évidemment, puisqu'on ne parlera plus, ou beaucoup moins en tout cas, de ce genre de rotation. Voilà, je vais repasser la parole à Ludovic sur les idées clés.
Alors page 11, vous voyez certaines de nos idées clés en long et en short telles qu'on vous les présente habituellement. Sur des dossiers composantes un peu cyclique value qui nous ont permis de rééquilibrer le portefeuille. On peut citer Stellantis, sur laquelle on est investi depuis l'année dernière. En réalité, on a remonté un petit peu la position avant de prendre un peu de profit ces derniers jours parce que ça a bien fonctionné. Donc c'est la fusion de PSA et de Fiat. C'est une affaire de retournement assez classique, dirigée de main de maître par Carlos Tavares, qui est sans doute le meilleur manager dans l'automobile en Europe. Avec un track record assez impeccable sur l'intégration d'Opel et une opportunité qui nous semble assez massive sur l'intégration du business européen, notamment de Fiat. Le business américain a de très bonne qualité, mais le business européen est en mauvais état. Voilà, en pro forma, ça fait 10 milliards d'EBIT à peu près, Stellantis. Et l'objectif de synergie, c'est 5 milliards. Et on n'a pas tellement de doutes sur le fait qu'il soit atteint ou dépassé compte tenu du track record du management. Et tout ça se paye avec un multiple qui est très inférieur à ce que se payent les pairs américains. Et c'est un business qui est très américain maintenant. C'est plus du Peugeot, c'est du Jeep aussi, effectivement. Et relativement décoté sur le business européen à un moment où Stellantis devrait afficher parmi les meilleures marges du secteur en Europe. Donc ça nous paraît vraiment une bonne idée. Dans la construction, on est investi sur Saint-Gobain, c'est un dossier sur lequel on est régulièrement investi, mais là on a renforcé la position. Saint-Gobain, c'est un animal un petit peu hybride qui nous semble intéressant en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une composante cyclique pas très chère qui nous semble attractive. Ça se paye 11 fois les résultats de l'année prochaine, enfin c'est vraiment très très peu cher en absolu et par rapport à son historique. Il y a une composante ESG, si on veut, enfin environnement, qui nous semble pas encore très bien capturée, sans doute parce que très mal marketée par le management, mais Saint-Gobain, c'est le premier fabricant de produits d'isolation en Europe, avec des opportunités qui sont assez majeures sur le Green Deal et les incentives qu'il va y avoir sur la rénovation des bâtiments en Europe. C'est un tiers des émissions de CO2, c'est un enjeu majeur. Et puis troisième élément, c'est une évolution de la gouvernance. C'est pas une révolution, mais c'est quand même une évolution de la gouvernance, avec M. Chalandar qui prend un peu de recul, et une gouvernance qui a souvent été critiquée, y compris par nous, par le passé. Ça nous semble avoir été quand même un repoussoir à l'investissement pour pas mal d'investisseurs, et c'est un verrou qui saute d'une certaine façon. Voilà, et puis autre dossier dans l'industrie, pour continuer d'évoquer des dossiers un peu cyclic value, c'est Rexel. Rexel, donc c'est la distribution de matériel électrique, c'est un métier dont on n'est pas amoureux particulièrement, hein, c'est un proxy du PIB avec un peu de cyclicité, mais c'est une société qui a vraiment souffert d'un management sous-optimal ces dernières années, et en fait quasiment depuis sa ré-IPO dans le marché suite au débouclage du LBO, et qui est reprise en main depuis un peu plus de 4 ans maintenant par Patrick Bérard, qui fait les bonnes choses. Voilà, donc globalement qui adresse un footprint géographique un petit peu trop large, en sortant des pays sur lesquels ils ne sont pas bons, en réinvestissant sur les pays sur lesquels ils peuvent faire mieux, notamment les États-Unis, et en adressant enfin le sujet de la distribution omnicanale, qui est un sujet majeur dans le secteur évidemment. On est encore au début de cette histoire-là, avec des marges qui ont pas mal souffert, mais qui vont remonter assez fort, une performance top line qui devrait recoller au marché après avoir pas mal décroché du marché en fait, et un multiple qui est très modéré, ça se paye 12 fois les résultats de l'année prochaine, ça se payait historiquement 15-16 fois, et ça peut presque se paye les comparables américains. Donc on est assez positif là-dessus.
On peut évoquer également HelloFresh, un dossier dont on a beaucoup parlé déjà l'année dernière, puisque c'était un des principaux contributeurs à la performance. On reste positionné sur ce dossier, dans la mesure où on a encore au moins 60% d'upside en termes de valorisation. Il nous semble que c'est un dossier qui, malgré sa performance, est toujours mal apprécié par le marché, qui l'a vu essentiellement comme un gagnant du Covid, mais qui loupe encore pour nous le cas structurel, qui est en fait une évolution des habitudes alimentaires. HelloFresh capte très bien ça, avec la pénétration du online dans l'alimentaire qui est forte en ce moment et qui a vocation à rester, d'une part, et des relais de croissance intéressants, avec notamment l'ouverture de nouveaux pays, ils vont ouvrir le Japon, l'Italie en fin d'année, et également l'ouverture de nouveaux marchés en termes d'opportunités, notamment la distribution de produits alimentaires, ils vont développer un supermarché en ligne qu'ils n'ont pas aujourd'hui, et ça nous paraît être assez mal apprécié aujourd'hui par les analystes et par le marché, donc on reste tout à fait confiant sur HelloFresh. On peut également mentionner dans les services IT Alten, Il y a un beau dossier de croissance, donc centré sur la R&D externalisée. Une valeur qui a souffert l'année dernière, puisque l'activité a été pénalisée par le confinement. Ils sont notamment exposés à l'aéronautique et l'automobile, donc ça a été difficile pour eux l'année dernière. Mais il nous semble que c'est une recovery à jouer sur une valeur de très bonne qualité, recovery qui n'est pas encore totalement jouée par le marché. Il nous semble que le management a été assez prudent dans sa communication récente, donc ça laisse de la place à la bonne surprise. En plus, ils n'ont pas de dette, donc ils ont pas mal de possibilités de croissance externe, avec des cibles aujourd'hui qui sont plus faciles à obtenir que par le passé. Donc ça nous paraît être une configuration très intéressante pour Alten. Donc on est très content d'être actionnaire aujourd'hui de cette société. Pour finir sur les idées clés, vous voyez sur la partie short une bonne illustration dans nos convictions d'un équilibre entre value et qualité. On a effectivement un certain nombre de dossiers de qualité qui sont des belles boîtes, mais qui nous paraissent chères en termes de valorisation, qui nous permettent de bien équilibrer notre portefeuille en termes de biais de style, et qui ne paraissent pas très risqués en short compte tenu effectivement de leur valorisation. Donc on a des dossiers comme Rémy Cointreau, Pernod Ricard, Just Eat Takeaway, ou encore Biomérieux, Coloplast, Rentokil. Ce sont toutes des belles boîtes, mais qui nous semblent bien valorisées, sans histoire particulière à jouer. Voilà pour les idées clés. En annexe, on vous a mis la performance de Phileas Equity Europe, qui est notre fonds action, long only, qui depuis le début de l'année sous-performe également et souffre forcément de cette rotation, qui va vivre aussi un équilibrage dans son style, évidemment. Voilà. Mais au-delà de ça, la performance depuis le lancement du fonds est plutôt bonne, puisqu'annualisé depuis la création, on surperforme le MSCI Europe d'un peu moins de 2% donc chaque année. Voilà, on en a terminé globalement pour la présentation. Il y a une session de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions, je laisse la parole à l'organisateur de la conférence.
Mesdames et messieurs, si vous avez une question, merci de composer le 0 suivi du 1. Il s'agit du 01 sur votre clavier téléphonique. Nous allons attendre quelques instants pour enregistrer les questions. Mesdames et messieurs, si vous avez une question, merci de composer le 0 suivi du 1 sur votre clavier téléphonique. Il semblerait que nous n'ayons pas de questions.
Ok, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on peut conclure. N'hésitez pas à nous rappeler après, hein, si vous avez des questions, on est tout à fait... évidemment disponible pour vous répondre. On peut conclure sur le message clé hein, de cette conférence, qui est évidemment la gestion à court terme du drawdown, qui est l'application de recettes habituelles pour reconstruire le track et récupérer ce drawdown. Donc ça, on fait ce qu'on fait d'habitude dans ce genre de configuration. Et deuxièmement, une évolution plus structurelle de la gestion du risque, qui va donc se concentrer à 100% ou au maximum en tout cas sur l'alpha du stock picking et donc une gestion du biais de style beaucoup plus restreinte que par le passé afin de dépolluer un peu le débat sur les rotations. Voilà, mais je vous remercie pour votre participation et bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter.